Vous êtes sur RTL.
RTL, il est 10h. Le journal avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre.
Bonjour Michel, bonjour à tous. À la une de l'actualité de ce dimanche, un air de rébellion contre les restrictions sanitaires entre les fêtes sauvages et les événements sportifs. Combien de temps encore la digue va-t-elle pouvoir tenir? Dans ce journal également, des vaccins sans rendez-vous pour convaincre les indécis. Un 14 juillet avec ou sans masque. La pollution maritime au large de la Corse, on fera le point sur place avec la préfecture. Et puis en 2015, il avait battu Nadal sans pour autant remporter le titre. Le cauchemar qui hante Novak Djokovic avant la finale de Roland-Garros cet après-midi contre Tsitsipas. La météo, bonjour Valérie Quintin.
Bonjour.
Alors pas grand-chose sur la carte aujourd'hui à part du ciel bleu et
voilà,
du soleil.
C'est ça, vous avez pratiquement tout dit. Et puis des températures franchement très très élevées. On a juste à redouter ce soir quelques averses orageuses en montagne sur les Alpes, mais surtout sur les Pyrénées. Pour l'heure, j'ai une petite grisaille quand même qui titille les côtes du Pays Basque et des Landes. C'est dire si j'ai beaucoup de choses. Les températures aujourd'hui fourchettent de 20 à 37 degrés cet après-midi entre Cherbourg et Perpignan, 26 à Charleville-Mézières, 28 à Paris et Auxerre, 29 degrés pour Quimper. Il fera 30 à Toulon, 33 degrés à Niort et à Albi et 36 à Nîmes.
Ça fait du bien, merci Valérie.
RTL, le 10h, Alexandre de Saint-Aignan.
Un derby du Pays Basque qui s'est attiré les foudres du préfet hier soir. Biarritz a renversé Bayonne et gagné sa place en top 14 la saison prochaine. Pour cette rencontre très attendue, les organisateurs ont visiblement fermé les yeux sur certaines contraintes sanitaires, pourtant très claires. La jauge de 5000 spectateurs a été dépassée, pas de contrôle systématique pour le pass sanitaire, mais aussi la police nationale a constaté la vente d'alcool à emporter dans l'enceinte sportive, sans compter l'invasion de la pelouse par les supporters à la fin de la rencontre. Bonjour Hortense Crépin.
Bonjour.
Depuis quelques jours maintenant, on a l'impression que ça craque de partout et on se demande combien de temps encore ça va pouvoir tenir.
Oui, c'était l'une des images du week-end, l'envahissement du stade, vous en avez parlé, mais aussi la dérogation à Roland-Garros, des rassemblements deux soirs de suite aux Invalides à Paris. Ça, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Vous le voyez peut-être autour de chez vous. Il y a beaucoup plus de monde après 23 heures. C'est que les chiffres officiels sont bons. On est tombé ce week-end sous les 4000 cas. Alors à 15 jours de l'échéance, on peut se poser la question. Le couvre-feu est-il encore utile jusqu'à 23 heures? Réponse de l'épidémiologiste Catherine Hill. Il faut que le message des autorités soit clair.
Les autorités ont envoyé des messages un peu contradictoires, couvre-feu à 23 heures, vous pouvez aller au restaurant, etc. Donc la population, on a déduit des jeunes, on a déduit qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, ce qui n'est pas mal, mais il faut que ce qu'ils veulent soit aussi aller se faire vacciner.
Et puis d'autres acteurs, les policiers, pour eux, dans cette ambiance, les 15 prochains jours s'annoncent très longs. Stanislas Godon, le délégué général Alliance Police Nationale.
On ne peut pas être derrière chaque Français pour voir ce qu'il va faire. Ce qui est sûr, ce qui est regrettable, c'est que un, ça expose des personnes, deux, ça expose aussi les forces de sécurité et ça mobilise les forces de sécurité qui ont peut-être autre chose à faire que de s'occuper de ce genre de rassemblement.
En résumé, on a le sentiment que le couvre-feu n'est plus une priorité, mais que la priorité, c'est la vaccination. On a dépassé les 30 millions de premières doses, c'est loin de l'immunité collective. Et en plus, dans certains départements, on voit que l'adhésion ralentit avec cette réaction. Pas d'urgence, on se fera vacciner à la rentrée. Juste un exemple, ce matin, lancé en Savoie, les soignants sonnent l'alerte car la moitié seulement de la population a reçu une dose.
Hortense Crépin pour RTL, la campagne de vaccination justement qui rentre dans le dur, le nombre d'injections quotidiennes est en baisse, il va être de plus en plus difficile de convaincre des nouveaux volontaires en Seine-Saint-Denis. Ce week-end, opération vaccination sans rendez-vous au centre commercial de Rosny 2, Valentin Boisset.
Oui, quelques agents distribuent des prospectus à l'entrée du centre commercial, non pas de la pub, il s'agit de convaincre les éventuels candidats au vaccin qui sortent sac de course en main.
Madame, est-ce que vous vous êtes fait vacciner?
Il y a du monde ou pas?
Non, vous pouvez y aller, il n'y a pas de monde, c'est sans rendez-vous et on vous vaccine tout de suite.
Bonjour, vous sortez des courses ou
pas? Et non, pas encore, je venais d'abord voir le centre de vaccination avant de faire du shopping. C'est pratique, ça ne nécessite pas de détour en particulier.
Le stand lui est placé à la sortie du RER, un médecin est présent près du réfrigérateur, il y a en tout ici 500 doses. Martine est infirmière, elle est chargée des injections.
Les gens sortent du RER, ils passent forcément ici.
Il y a des jeunes qui viennent quand même?
20, 21 ans. Comment vous êtes venus?
Il y a une amie qui m'a appelé.
Alors après, vous faites vos courses?
Oui, après je fais les courses.
Pour l'instant, c'est une expérimentation. Au moment où la campagne vaccinale ralentit, Floréal Mangin est chargé de l'opération au département de la Seine-Saint-Denis.
Ce qu'on cherchait, c'était de faciliter l'accès à la vaccination.
Est-ce que ça veut dire que le rendez-vous peut être un barrage?
Oui, le rendez-vous est un barrage. Pas simplement parce qu'il faut prendre le temps de le faire, mais aussi parce que souvent les rendez-vous ne sont pas disponibles.
Ce centre éphémère restera ouvert jusqu'à ce dimanche soir.
Valentin Boisset en Seine-Saint-Denis pour RTL. On se posait la question il y a quelques instants du maintien ou non des restrictions sanitaires. Vous allez voir que le débat existe aussi chez les militaires. À l'approche du 14 juillet, Brice Dugénie, on nous promet cette année pour le traditionnel défilé un retour à la normale.
Oui, fini le défilé étriqué sur la place de la Concorde en 2020. Le 14 juillet 2021 retrouvera donc les Champs-Élysées. 200 chevaux, plus de 4000 militaires à pied, 220 véhicules et dans les airs. Derrière la patrouille de France, 60 avions et 25 hélicoptères retrouveront donc leurs habitudes. Depuis des mois, les forces armées travaillent sur ce scénario d'un retour à la normale. Enfin, pas tout à fait normal, comme le décrit le gouverneur de Paris, le général Abad.
Très concrètement, depuis des mois, nous nous sommes mis dans une posture de retour à un défilé traditionnel. Pour autant, la question se pose, notamment des questions très concrètes, comme le port du masque, les règles dans les tribunes.
Pour le retour du public, en fonction de l'évolution de la pandémie, la question des 4 mètres carrés par spectateur reste en suspens. Idem pour le défilé, si la situation sanitaire venait à se dégrader brutalement, les militaires ont prévu une solution.
Si d'aventure il venait y avoir des difficultés, eh bien nous tromberions sur un mode dégradé, sur une adaptation.
Un mode dégradé sur le modèle de l'an passé, mais à 4 semaines de l'échéance, cette option semble désormais peu probable.
Les explications de Brice Dugénie pour RTL. Un 14 juillet avec ou sans masque pour les militaires sur les Champs-Élysées. On pourra en discuter tout à l'heure dans le grand jury RTL, le Figaro LCI. Bonjour Benjamin Sportouche.
Bonjour Alexandre, bonjour à tous.
Votre invité, le chef d'état-major des armées.
Oui, François Lecointre, hein, il est le plus haut gradé de France et il est auprès d'Emmanuel Macron depuis 4 ans. Alors c'est un invité exceptionnel à plus d'un titre. D'abord parce qu'il s'exprime peu. L'armée n'est pas baptisée la grande muette pour rien. Et puis, il y a eu, bien sûr, des tribunes des militaires en mai et juin qui ont fait grand bruit. Énorme réaction des politiques, adhésion des Français selon les sondages. Et on n'a pas entendu François Lecointre, à part une interview dans la presse. A-t-il minimisé l'impact ? Ressort-il fragilisé de cet épisode au point de devoir quitter ses fonctions ? En tout cas, et c'est aussi pourquoi ce grand jury est très attendu, eh bien la rumeur du départ de François Lecointre est de plus en plus forte. Alors bien sûr, on lui posera la question. Il peut tout à fait partir, car il a l'âge de la retraite à 59 ans. Mais y aurait-il d'autres raisons ? On se souvient encore, Alexandre, de la démission de son prédécesseur, Pierre de Villiers, en 2017 avec fracas pour cause de désaccord profond avec Emmanuel Macron, ce qui a crispé, pour ne pas dire plus, les relations entre l'exécutif et les soldats. Vous voyez, un général au grand jury, donc c'est inédit, c'est attendu. Je vous dis à tout à l'heure, midi donc.
À tout à l'heure, Benjamin Sportouche. Il est soupçonné d'être impliqué dans l'enlèvement de la petite Mia en avril dernier. Rémi Daye-Widman et sa famille viennent d'être expulsés de Malaisie, remis aux autorités françaises. Cette figure du mouvement complotiste n'a pas été arrêtée dans le cadre de l'enquête sur l'enlèvement de la petite Mia, mais parce que son visa a expiré. La Corse est-elle toujours menacée par une marée noire ? On passe un coup de fil à la préfecture dans un instant.
RTL Matin. RTL, le 10h, Alexandre de Saint-Aignan.
Et à 10h09, la suite de votre journal. Des nappes d'hydrocarbures en pleine Méditerranée au lendemain du déclenchement du plan Polmar en Corse. La pollution avait été aperçue à seulement 800 mètres du littoral, sans doute dû au dégazage illégal d'un navire. Nous sommes en ligne avec la capitaine de vaisseau Christine Ribe, porte-parole de la préfecture de la Méditerranée. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Alors, quelles sont les dernières nouvelles ?
Alors, on a un vol hélicoptère qui nous a permis de repositionner la pollution, qui est maintenant à plus de 12 km des côtes, avec une dérive vers le sud-est, c'est-à-dire qu'elle s'éloigne des côtes. Et donc, on est plus confiant qu'on l'était hier matin.
Les opérations de pompage, elles continuent ?
Oui, tout à fait. Les chaluts sont à l'eau. On continue et on se fait diriger par les moyens aériens pour récupérer. La difficulté aujourd'hui, c'est que c'est un travail de fourmi, puisque la pollution, aujourd'hui, ce sont des nappes qui se sont fragmentées en surface et donc qui est très dispersée. Donc, on va aller chercher chaque petit coin pour voir ce que l'on peut récupérer.
Est-ce qu'il y a encore un risque ce matin ?
Alors, on ne peut jamais être catégorique et dire qu'il n'y a pas de risque. Néanmoins, on a une pollution qui s'éloigne des côtes. Donc, ce qu'on voit, c'est uniquement ce qui est en surface. On pourrait voir des choses entre deux eaux qu'on ne verrait pas. Néanmoins, le risque est bien, bien inférieur à ce qu'on pouvait craindre hier. Et on est très satisfait aujourd'hui de savoir que rien n'a été, pour l'instant, en tout cas, découvert sur la côte. Donc, on continue les opérations et on espère que l'impact sera minime et peut-être nul, espérons-le.
Et ben voilà, c'est une bonne nouvelle. Merci Christine Ribes, porte-parole de la préfecture de la Méditerranée. Bon courage, bonne journée. Un autre acte de malveillance, cette fois-ci en Isère. Les dirigeants du club de foot de la Murette ont constaté la disparition cette semaine de 150 mètres carrés de pelouse synthétique arrachée en pleine nuit. Le président de l'Union sportive de la Murette, Jean-Noël Bouffard-Roupé.
Vous voyez les dégâts, à peu près 150 mètres carrés de pelouse synthétique a été enlevé. Voilà, certainement pour mettre autour d'une piscine ou une terrasse, c'est clairement ça. Hein. C'est vraiment scandaleux d'arriver sur un terrain de football et de voir ça le matin, quoi. Catastrophique, écœuré. Selon la gendarmerie, entre 8 et 10 personnes étaient là pour enlever cette partie de terrain. Ouais. Malgré le poids, parce qu'il y a du sable et du lestage de billes de plastique dessus, ça pèse bien 250 kg, 350 kg, un petit morceau de rouleau, quoi. Ils ont certainement chargé ça sur un camion, ils ont forcé le grillage et traverser tout le terrain avec les rouleaux sous le dos, quoi. Le préjudice est estimé entre 60 et 80 000 euros parce qu'il faut changer toutes les bandes sur toute la longueur.
Pour un petit club, c'est pas rien.
Ah, c'est pas rien, on va espérer que les assurances prennent bien en charge.
Des propos recueillis par Serge Payot pour RTL.
Roland-Garros 2021, c'est sur RTL.
Et la finale, c'est cet après-midi, une finale d'une édition déjà historique de Roland-Garros, avec Novak Djokovic premier à battre deux fois Rafael Nadal sur terre battue dans un match en 3-7 gagnant. Ça n'est pas rien quand on sait que le bilan de l'Espagnol dans ce domaine était de 130 victoires pour deux défaites. Seul le Serbe numéro 1 mondial semblait capable de le faire. Novak Djokovic qui va tenter désormais d'aller au bout de l'exploit en tentant de remporter le titre face au grec Stefanos Tsitsipas, Isabelle Langer.
Vendredi, Stefanos Tsitsipas n'a pu retenir ses larmes après sa qualification. À 22 ans, le Grec va disputer sa première finale en Grand Chelem, son rêve de gosse. Mais n'allez pas croire qu'il va s'en satisfaire. Même s'il n'a pas l'expérience de son illustre aîné, il compte bien ouvrir son palmarès en Grand Chelem. Ce sera la 8e fois qu'il affronte Djokovic. Il n'a remporté que 2 de leurs duels, jamais sur terre battue. L'an passé, il n'avait toutefois abdiqué qu'au 5e set en demi-finale ici. Vainqueur à Monte Carlo et Lyon cette saison, Tsitsipas, attaquant magnifique, a prouvé qu'il a désormais les armes pour briller sur la surface ocre.
Magnifique. Attention Isabelle à ce que votre favori ne devienne pas un tigre de papier au moment de se mesurer au numéro 1 mondial. Novak Djokovic chasse les records de ses frappes pures comme attiré par les lignes. Il est obsédé par l'idée de marquer l'histoire du tennis et la perspective d'être le premier joueur de l'ère moderne à avoir gagné 2 fois les 4 tournois du Grand Chelem est une motivation majuscule. La nouvelle vague attendra encore un peu.
Isabelle Langer et Jean-Michel Rascol pour RTL. La finale, c'est à suivre à partir de 15h sur notre antenne avec un point toutes les demi-heures. En football, la suite de l'Euro à suivre aujourd'hui. Angleterre-Croatie à 15h, Autriche-Macédoine du Nord à 18h et enfin Pays-Bas-Ukraine à 21h. Les courses, le quintet à Longchamp cet après-midi avec les pronostics de Dominique Cordier. Le 9, le 6, le 3, le 2, le 10... Le 15 et le 4, la dernière minute, c'est le numéro 2, Milfield. Il est 10h14 sur RTL, mieux que 10h ou Spotify. La première playlist de France, c'est avec vous, Eric Jean-Jean.
Mais qu'est-ce qu'il est mignon. Comment ça va, mon ami?
Très bien.
Ça me fait plaisir de vous parler en pleine journée, parce que généralement, on se croise la nuit quand vous arrivez. Enfin, moi, je finis ma journée, vous êtes en pleine forme, évidemment, parce que vous êtes jeune et frais. Mais généralement, à 22h, quand je fais des... Oh, si. Moi, je dis ça pour toutes les auditrices, vous êtes magnifiques. Non, mais vraiment. Merci cher Alex, à tout à l'heure. Non, pas à tout à l'heure, c'est pas vous à 11h.
Non, mais je vous écouterai par contre.
Bon, bah ça me fait plaisir. Et j'ai une grosse playlist en effet, on va commencer par Souchon. Salut, bon dimanche mon ami.
Bon dimanche.